Bonsoir. Un non, sans surprise, à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie dans un scrutin boycotté par les indépendantistes. Mais tout reste à faire pour imaginer un nouveau statut à ce territoire toujours très divisé. Aux États-Unis, l'espoir de retrouver des survivants après le passage des tornades s'amenuise. À mesure que les heures passent, le gouverneur du Kentucky redoute une centaine de morts, vous l'entendrez. Boris Johnson, fragilisé à la tête du Royaume-Uni, la semaine à venir s'annonce décisive. Et puis un tout nouveau champion du monde de Formule 1, il s'appelle Max Verstappen. À 24 ans, c'est son premier titre. Gris au nord et soleil au sud demain. Prévision de Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Sans célébration ni concert de klaxon, la Nouvelle-Calédonie a dit non pour la troisième fois à l'indépendance. Le score du référendum organisé ce dimanche est sans appel. Le non l'emporte à 96%. Un résultat salué par le président de la République. Pour Emmanuel Macron, la France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. Mais c'est une victoire sur abandon, si l'on peut dire. Les indépendantistes avaient en effet appelé à boycotter le scrutin et 44% seulement des électeurs se sont déplacés. Alors le camp loyaliste se réjouit tout de même de voir une page se tourner. Parole d'électeurs qui ont choisi de rester dans le giron de la France, recueillie par Sandrine Etoa-Andegue.
J'ai voté le non. Je veux que la Nouvelle-Calédonie reste toujours française. C'est la France qui enrichit la Nouvelle-Calédonie.
C'est la dernière, donc fallait y aller aussi pour garder une Calédonie comme je l'aime, quoi. Avec ce qu'on a déjà, quoi. La sécurité, le travail, la santé.
Quand on voit les pays indépendants depuis quelques années autour de nous, la misère dans laquelle ils sont, pour ne pas le citer, le Vanuatu, où les gens demandent quand est-ce que c'est fini l'indépendance, parce qu'ils n'en peuvent plus, ben voilà. Hein.
La France, à l'heure actuelle, elle a prouvé qu'elle pouvait avoir la main tendue. Je vais être méchant, mais certains leaders du parti indépendantiste, à l'heure actuelle, ils sont où? Ils sont absents.
Et maintenant, tout reste à faire. Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture d'une période de transition pour bâtir un projet commun. Écoutez la réaction de l'indépendantiste Roch Wamitan, président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, interrogé sur France Info.
Pour nous, ce référendum n'a pas de sens politique. Il est juridiquement calé, il n'y a pas de problème avec ça, mais il n'a pas de sens politique. Parce que, un, il nous renvoie dos à dos. Et puis, il ne faut pas oublier, mais il n'a pas dit, mais évidemment, il ne peut pas le dire. Le peuple autochtone, le peuple kanak, qui est là quand même depuis 3000 ou 4000 ans, il n'a pas participé à ce référendum. Quel sens donner alors à ce référendum au cours duquel ce sont les autres qui se sont exprimés, pas le peuple kanak. Donc voilà, je voulais juste dire ça, mais bon, je remercie le président de la République parce que quand même, il a fait un discours important envers la Calédonie et les Calédoniens, mais il a remis les compteurs à zéro.
Et le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, sera l'invité de Mathilde Munoz demain matin à 6h20 sur France Inter. Anne Hidalgo persiste et signe. En meeting à Perpignan cet après-midi, la candidate socialiste a appelé à l'union de la gauche avant le premier tour de la présidentielle. Le seul chemin qui permet de se rassembler et de l'emporter est celui de la primaire populaire, a-t-elle lancé. Proposition toujours refusée par le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. C'est parti pour l'indemnité inflation de 100 euros promise par le gouvernement. Elle sera versée à partir de demain aux étudiants boursiers avant un versement progressif à tous les Français concernés, ceux dont les revenus sont inférieurs à 2000 euros net par mois. Aux États-Unis, les sauveteurs continuent de chercher des rescapés sous les décombres après le passage de l'une des pires séries de tornades de l'histoire du pays. Le bilan officiel est de 94 morts, mais il risque de s'alourdir, comme le redoute le gouverneur de l'État du Kentucky, Andy Beshear, interrogé sur CNN.
J'ai des villes entières qui ont disparu, celle de mon père, la moitié à peine est encore debout, c'est difficile à décrire. On croit aller de porte en porte pour vérifier que chacun va bien, mais il n'y a plus de porte. La question est de savoir s'il y a quelqu'un sous les décombres de milliers et de milliers de bâtiments détruits. Je suis dévasté. Nous avons beaucoup d'aide venue des États voisins, du gouvernement fédéral, mais l'étendue des dégâts rend difficile l'organisation des secours. Et pour ceux que nous n'avons pas encore retrouvés, l'inquiétude est particulièrement grande.
Le gouverneur du Kentucky. Et puis à 19h, nous rejoindrons notre envoyé spécial Sébastien Paour dans la ville sinistrée de Mayfield. C'est la fête de trop pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique n'arrive pas à se dépêtrer du scandale de la célébration de Noël l'an dernier en pleine pandémie au 10 Downing Street avec des dizaines de personnes. Et pour la presse britannique, 2 ans jour pour jour après son élection, la semaine à venir s'annonce décisive pour Boris Johnson. À Londres, Laura Calmus.
Une photo de Boris Johnson, quiz de Noël en main, assis à côté de deux de ses collaborateurs, l'un avec une guirlande autour du cou et l'autre semblant porter un bonnet de Noël. C'est la une du Daily Mirror. La photo a été prise l'an dernier, le 15 décembre 2020, date à laquelle les rassemblements étaient interdits. Ce matin, son ministre de l'Éducation est venu à sa rescousse. Il a participé à un quiz virtuel pour remercier son personnel, a-t-il dit. Il n'y avait pas d'alcool et les règles étaient respectées. Mais c'est une photo de trop pour les Britanniques. Résultat, sa popularité est en berne, avec l'opposition qui le devance dans les sondages. 57% des Britanniques sont favorables à sa démission. Dans les couloirs de Westminster, les critiques fusent. Une fronde d'une soixantaine de députés au sein même de son parti s'est formée. Cette semaine au Parlement, ils voteront contre la mise en application des nouvelles restrictions. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Et puis c'est une incroyable saison de Formule 1 qui se termine ce soir avec le sacre de Max Verstappen. À 24 ans, le pilote néerlandais remporte son premier titre de champion du monde devant Lewis Hamilton, qu'il a dépassé dans le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison cet après-midi à Abu Dhabi. Décryptage de cette course folle par le journaliste Laurent Froissart, spécialiste de la Formule 1.
C'était assez paradoxal parce que Lewis Hamilton a dominé le Grand Prix. Il a pris un meilleur départ, il a mené toute la course. La stratégie était parfaite. La crainte, c'était évidemment l'intervention du moteur de sécurité, ce qui est arrivé. Et je disais que c'était paradoxal parce que sur l'ensemble de la saison, c'est vrai que Verstappen a été un petit peu au-dessus. Tout s'est joué de manière incroyable dans ce dernier tour, alors que Lewis filait vers un huitième titre, ce qui paraissait assez facile, mais il y a eu ce coup du sort. On a eu le droit à un duel de titans, les deux meilleurs pilotes à leur meilleur niveau. C'était une saison absolument incroyable.
Lionel Froissart, interrogé par Cédric Guillou, a noté que l'histoire n'est peut-être pas tout à fait finie. Mercedes, l'écurie de Lewis Hamilton, conteste le résultat de la course. Et puis c'est une autre forme de course, celle pour boucler les derniers cadeaux de Noël. La plupart des commerces étaient ouverts ce dimanche. L'occasion pour les associations de récolter des fonds en proposant de faire vos emballages cadeaux, comme dans cette librairie parisienne. Vous êtes allé promener votre micro, Yann Gallic.
Et derrière le comptoir de la librairie, Chloé enchaîne les paquets cadeaux. Cette lycéenne de 16 ans consacre une partie de son dimanche à cette activité bénévole pour les Restos du Cœur.
J'adore faire du bénévolat et puis c'est une bonne cause.
Les gens sont assez généreux d'une manière générale.
Oui, j'ai l'impression qu'ils sont très généreux. Je pense que la période du Covid, oui, ça a impacté parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans la précarité. Il y a vraiment un sentiment de générosité avec les fêtes. Il faut en profiter.
En effet, les clients glissent volontiers quelques pièces ou un billet dans l'urne des Restos du Cœur.
Je vais donner une petite pièce. Bah oui, mais évidemment qu'il faut, c'est génial, il faut les aider. Mais moi, je les aide, je fais des dons tous les ans. Donc là, je suis ravie qu'ils soient là. On sait où va l'argent, ça va vraiment aux gens qui en ont besoin.
Anne Lorvial est la co-gérante de la librairie ICI, cette grande librairie indépendante qui réalise plus de 20% de son chiffre d'affaires annuel pendant les fêtes de fin d'année.
On a été sollicité par les Restos du Cœur et on a été très heureux de ça. Ça fait partie de nos valeurs, évidemment. Pour nous, c'est un grand soutien parce que faire des paquets cadeaux, c'est très important. Donc on a fourni un planning. Après, il y a eu des créneaux qui ont été ouverts pour les bénévoles. Ça se passe très bien, tout le monde est présent. C'est vraiment une belle expérience.
Pour les associations, les fêtes de Noël sont primordiales. En France, près de 40% des dons se font sur les trois derniers mois de l'année.
Merci Yann Gallic. On n'oublie pas la petite pièce dans la boîte. Le temps.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Gris au nord, soleil au sud, rien que du classique, Jean-Michel Golinski.
Une France coupée en deux ce lundi avec du plein soleil ou presque, du Jura à la Corse, du golfe du Lion au massif central et le long des Pyrénées avec des brouillards un peu plus tardifs à se dissiper vers le Val de Saône et dans la vallée de la Garonne. Mais plus haut, sur une large moitié nord, il sera difficile de sortir la tête du gris avec en prime des brouillards d'évolution très lente et des gouttes par intermittence. Les températures en fonction de l'état du ciel vont afficher l'après-midi 10 à 15 degrés dans la partie sud, mais souvent à peine 7 à 10 dans la moitié nord, avec de faibles gelées à prévoir en fin de nuit dans le sud-ouest et dans le quart nord-est.
Jean-Michel Golinski de Météo France.